Bien-aimés en Christ, bonsoir. Voilà, nous allons faire une première lecture dans le livre du Théronome, chapitre 30, versets 19 et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je vous offre le choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu et pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le titre donc de notre méditation sera ce soir « Choisir pour vivre », c'est-à-dire le meilleur. Choix, prendre, goûter, adopter, opter. Ces paroles sont prononcées par Moïse, même à la veille de sa mort, prennent de ce fait valeur de testament, c'est-à-dire qu'il a fait connaître sa dernière volonté. D'où, je dirais, leur solennité. De plus, elles ont été prononcées par un homme remarquable, je dirais même unique dans l'histoire du monde. Et nous pouvons aussi le lire dans Deutéronome au chapitre 34 et au verset 10, si vous le voulez bien. 34, verset 10. Au sein du peuple d'Israël, il n'y a plus jamais paru de prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Aucun ne fut égal pour les signes miraculeux et les prodiges que l'Éternel l'avait envoyé accomplir en Égypte devant le Pharaon, devant ses ministres et tout son peuple. Et pour tous les actes puissants et redoutables que Moïse a accomplis aux yeux des Israélites. Amen. Il est dit que Moïse vivait tellement près de Dieu que celui-ci lui parlait donc face à face. Il s'entretenait directement avec Dieu lui-même. Il avait donc l'amitié de Dieu. Est-ce que nous avons nous aussi l'amitié de Dieu avec nous? Dieu lui était si profondément attaché qu'il ne supportait d'ailleurs aucune accusation, aucune critique contre lui. Et d'ailleurs, a condamné sévèrement ceux qui l'ont un jour critiqué. Et nous pouvons le lire, si vous le voulez bien, dans Nombre, au chapitre 12, versets 6 à 8. Nombre, chapitre 12, versets 6 à 8, c'est la version Semeur. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Si se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, et dans une vision que je me révélerai à lui, ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais les choses sont différentes avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. C'est de vive voix que je lui parle, de façon claire, et non dans un langage énigmatique, et il voit l'Éternel de façon visible. Comment donc avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse, amen. Donc c'est la colère de l'Éternel contre Aaron, Myriam, et donc ils ont eu la lèpre. Moïse, après avoir été instruit donc dans la sagesse des Égyptiens, vous l'avez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, il est dit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et qu'il était puissant en parole et en œuvre. Verset 22. Moïse donc, comme vous le savez, passa 40 ans au désert, où Dieu le prépara à prendre à main les destinées donc du peuple d'Israël. Au moment où il prononce donc les paroles citées en exergue, c'est un homme de 120 ans, et oui, riche de l'expérience d'une longue vie passée dans la communion avec Dieu. Avons-nous, nous aussi, passé une vie longue dans la communion intime, étroite avec Dieu? Dans le testament donc qu'il laisse à sa postérité, Moïse donne un raccourci la doctrine biblique. Présentée donc sous la forme de l'alternative que voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et par amour pour son peuple, il pousse l'audace jusqu'à dire « Choisis la vie afin que tu vives ». Il n'existe pas de troisième voie. Il n'y a pas de sortie échappatoire permettant d'éviter une prise de position claire et définie. L'Écriture laisse clairement entendre que Dieu est les demi-mesures et le mélange et qu'il ne tolère pas les tièdes. Et il dit d'ailleurs « Je les vomirai de ma bouche » dans le livre de l'Apocalypse. Le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance, présente le problème du choix dans des termes, je dirais, tout aussi extrêmes. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, nous dit l'apôtre Jean. Il n'y a pas d'autre alternative. Après Moïse, l'apôtre insiste à son tour. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5:20. Dans l'Épître aux Hébreux, le même thème reçoit cette fois un caractère d'urgence. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous allons voir rapidement 5 points ensemble. Pourquoi choisir? La liberté donc de choisir. La nécessité de choisir vient du fait que nous sommes donc des pécheurs. Parce que nos premiers parents ont péché. Romains 5:12, il est dit, pas un seul homme n'a péché dans le monde. Pas un seul homme qui n'a péché. Le péché donc a corrompu l'homme dans ses pensées. Il a corrompu l'homme dans ses désirs. Il a corrompu l'homme dans sa volonté. Et la Genèse au chapitre 6 au verset 5 nous dit, je vous le lis, son cœur, le cœur de l'homme, ne concevait que des pensées mauvaises. Le mal, à longueur de journée, nous dit la version, se meurt. Fallait-il le faire? Car le salaire du péché, vous le savez, c'est la mort, nous dit l'Épître aux Romains. Devant donc l'évidence de ce désastre et devant l'incapacité de l'homme à remédier à cette condition, Dieu ne pouvait rester insensible. Il s'est penché donc vers l'homme auquel il a offert une solution. Dieu a toujours une solution à la personne et à l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Il nous est dit dans Romains 5:6, « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué ou fixé selon la traduction, est mort pour des pécheurs, est mort pour des impies. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour vous, pour toi. Il est mort pour moi. C'est l'amour de Christ, car Dieu est infiniment bon. Dieu est bon. Loin de vouloir agresser l'homme, Dieu lui laisse la liberté de choix. C'est vrai que nous avons la liberté de choix. Vous êtes-vous déjà placé en face du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ? Le fait qu'il soit mort ne prouve-t-il pas que nous sommes des pécheurs? Pouvons-nous nous imaginer qu'il se soit trompé et qu'il soit mort en vain? Si donc sa mort était nécessaire, il est urgent pour vous, pour moi, de vous tourner aujourd'hui vers lui, c'est-à-dire de choisir. Choisir veut dire littéralement goûter, adopter, opter pour la vie. L'absence de choix ou le mauvais choix maintient l'homme sous le jugement de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous dit l'apôtre Jean au chapitre 3 et au verset 36, celui qui ne se confie pas au Fils ou celui qui désobéit, nous dit la version sommaire, n'aura pas la vie éternelle. Deuxième point, choisir la vie. Choisir la vie, c'est aussi choisir le programme de Dieu pour notre vie. Programme prévu qui seul, lui, ce programme peut satisfaire le cœur de l'homme. Mais bien aimé, de ce choix dépendent, je dirais, premièrement, notre vie dans sa totalité, la vie de tout l'être. Deuxièmement, je dirais, la prolongation de nos jours, la santé, la sécurité. Il nous est dit dans les Proverbes que la crainte de l'Éternel prolonge les jours. Troisième point, je dirais, notre demeure dans le pays. La jouissance aussi des biens terrestres, la jouissance des biens matériels, la protection et également la paix. Que pourrions-nous donc désirer d'autre? Mais c'est le programme de Dieu qui veut se réaliser. Ces promesses de Dieu prennent, je dirais, un extraordinaire relief de nos jours, alors que les garanties humaines ont perdu un peu de leur évidence. Choisis la vie. Ce choix primordial en implique trois autres. Le Deutéronome, je ne vous donne pas les versets, il y en aurait trop, hein, nous dit, premièrement, choisis d'aimer l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le deuxième choix, c'est choisir d'obéir à sa voix. Josué 24, 24. Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Troisième choix, choisir de s'attacher à lui. Vous vous attacherez uniquement à lui. Josué 23, verset 8. Voulez-vous ce soir vous attacher uniquement à votre Dieu? Je ne peux répondre à votre place. C'est un point d'interrogation. Troisième point, il nous est dit choisir d'aimer l'Éternel ton Dieu. Et on répète toujours dans le Deutéronome et le Lévitique, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu l'aimeras comme toi-même, et Dieu sait que nous nous aimons, tu l'aimeras comme toi-même. Ce choix est celui du cœur. Il implique en effet une connaissance personnelle de Dieu, je dis bien personnelle de Dieu, allant peu à peu jusque dans l'intimité de Dieu. Dès lors alors, notre cœur s'ouvre à l'amour divin et commence à y répondre. C'est vrai que malheureusement, par nature, notre cœur est tortueux et d'une insondable méchanceté. Car notre cœur, c'est vrai, était autrefois éloigné de Dieu. Mais Dieu nous régénère, il nous transforme personnellement et il nous invite donc encore ce soir à l'aimer. Bien-aimés, une question, aimons-nous l'Éternel de tout notre cœur? Je ne demande pas de réponse. Si nous ne pouvons pas répondre par l'affirmative, c'est que nous nous aimons trop nous-mêmes. Pourquoi aujourd'hui, parfois, notre christianisme ne fait-il pas envie? Pourquoi nos voisins, nos amis, nos relations, nos voisinages, nos collègues de travail ne sont-ils pas, je dirais, amené à la foi par notre témoignage? C'est parce que, moi j'ai ajouté peut-être, c'est peut-être parce que ils ne voient pas ou peu de preuves en nous de notre amour pour Dieu. Je fais mon mea culpa, moi aussi. C'est un point d'interrogation, nous seuls pouvons y répondre. Ce choix, mes bien-aimés, est nécessaire, car il nous contraindra à abandonner tout autre maître, et à donner à Dieu donc la priorité dans nos vies. Est-ce que nous donnons à Dieu la priorité jour après jour dans nos vies? Vous connaissez ces versets? Je ne vous donne pas les références, ça ferait trop. Premièrement, il est dit, « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il haïra, c'est-à-dire il détestera et aimera l'autre, ou il s'attachera, il sera dévoué à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire le malin. Et deuxièmement, on répète toujours, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ce choix, mon bien-aimé, est donc logique. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est la réponse normale de l'homme à l'amour infini de Dieu vers lui. Ce choix, donc, est générateur de pureté. Parce que tout autre choix nous dresse contre Dieu. L'amour du monde, en effet, est inimitié, nous est-il dit, contre Dieu. Chercherions-nous à concilier le christianisme et la mondanité? Ça ne fait pas bon ménage ensemble. Dieu ne tolère pas le compromis et de notre côté, nous ne devons pas davantage le tolérer. La parole de Dieu nous dit « Ne soyez pas adultères de cœur ». La relation entre Dieu, Père et le Fils, sont donc empreintes d'amour. Il est dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Nous sommes aussi invités à notre tour à ce caractère divin. Bien-aimés, si Dieu nous a aussi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. C'est l'amour fraternel qui nous dit l'apôtre Jean au chapitre 4 et au verset 11. Que de progrès, je dirais, s'avèrent nécessaires dans ce domaine. De nous aimer les uns les autres. C'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à l'accomplir sur le terrain. Ah, si l'amour pouvait se substituer aux querelles, aux animosités par exemple, ne disons jamais que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre prochain, si nous n'aimons pas notre frère ou notre sœur. En Christ, ce serait mentir si nous n'aimons pas nos familles, nos amis. Et la parole de Dieu nous dit bien d'aimer tous nos frères et sœurs. Et vous me direz, c'est peut-être difficile, c'est vrai, d'aimer certaines personnes qui peuvent avoir un caractère plus ou moins facile. Mais Dieu nous dit même d'aimer nos ennemis. Alors là, c'est encore beaucoup plus difficile et il faut vraiment tout l'amour et toute la grâce de Dieu. Aimer Dieu entraîne une complète transformation aussi dans les relations du couple, dans les relations de la famille, comme dans les rapports professionnels. C'est là le témoignage que Dieu et le monde attendent de nous, mes bien-aimés. Choisissons d'aimer Dieu et nous en verrons les effets bénéfiques tout autour de nous. Le quatrième point, c'est choisir d'obéir à sa voix. Hébreux 3,15 dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, n'attendez pas à demain, c'est aujourd'hui le jour ou le temps favorable selon la traduction. Ce choix, mes bien-aimés, c'est celui de l'esprit, c'est celui de l'intelligence. C'est vrai qu'au milieu des nombreuses voix qui s'élèvent, et il y en a des voix aujourd'hui, sectes, gourous, esprits de religiosité, philosophie, politique, sachons reconnaître surtout la voix de notre Dieu. À l'opposé des autres voix, celle de Dieu répond aux besoins de l'esprit parce qu'elle est la voix du Créateur, la voix du Père qui s'adresse à ses propres enfants. Quel n'est pas notre privilège, mes bien-aimés ? Prenons-nous le temps de l'écouter. Ou est-ce qu'on se laisse distraire par des voix peut-être en apparence plus impressionnantes, mais qui nous appauvrissent au lieu de nous enrichir et nous trompent, puisqu'elles ne nous apportent rien. Dieu a parlé. Et parce que Dieu est la vérité, sa parole est vraie. Elle donne de la confiance, sa parole, nous dit l'apôtre Jean. Ta parole est la vérité. La parole de vérité, c'est-à-dire la parole de l'Évangile. L'apôtre Paul disait, je ne vous donne pas les références, il y en aurait trop, c'est moi qui les ai là. Cette parole est certaine. Et les Thessaloniciens la considéraient, cette parole, non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. Et les Thessaloniciens disaient qu'ils l'avaient accueilli, cette parole. Est-ce que nous accueillons nous-mêmes la parole de Dieu ? Pour les gens de Bérée, il est dit, elle servait de référence suprême et garantissait l'exactitude, c'est-à-dire la conformité de ce qui avait été dit. Acte 17, 11, je vous le lis. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Est-ce que nous faisons parole nous-mêmes ? Est-ce que nous recevons la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement ? Est-ce que nous sondons jour après jour les saintes Écritures ? Nous détenons la réponse nous-mêmes. Mes bien-aimés, cette parole, elle est permanente. Cette parole, elle est vivante. Cette parole, elle est indestructible, comme le diamant. C'est pourquoi les disciples s'y référaient, et nous aussi, nous devons nous y référer. N'avait-elle pas inspiré leurs actes ? Chez la mère de Galilée, après qu'ils avaient travaillé toute une nuit sans rien prendre dans leur filet, Pierre dit au Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Et on connaît la suite, il y a eu la pêche miraculeuse. C'est tout simplement l'obéissance au Seigneur. Nous devons obéir à la parole de Christ. Il se peut aussi, tels les disciples, cette nuit-là, vous ayez vous aussi une tâche épuisante. Si c'est le cas, écoutez donc la voix de Dieu et jetez le filet du bon côté de la barque. Vous ne vous épuiserez plus et vous recueillerez ce que Dieu a préparé pour chacun de vous. Amen. La parole de Dieu a aussi inspiré la prière des disciples. Seigneur, c'est toi qui as dit par l'Esprit, souhaiteriez-vous, mes bien-aimés, que Dieu, ce soir ou dans les jours qui viennent, intervienne dans telle ou telle situation, travail, santé, famille, grâce particulière. Alors priez en vous appuyant sur la parole de Dieu. Obéir à la voix de Dieu et croire à la parole de Christ est le fruit d'efforts persévérant. Il nous est dit dans la parole de Dieu que si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Avez-vous envie de régner avec votre Dieu ? Amen. Moi, oui. Voilà pourquoi Paul parle de s'appliquer à la lecture. Appliquons-nous à la lecture de la parole de Dieu. Et peut-être, mes bien-aimés, que cela sous-entend une continuité et l'existence même d'un programme quotidien. Peut-être sera-ce un quart d'heure ou une petite demi-heure de moins de sommeil, ou un poste de télé le soir ou Internet qu'on éteindra un peu plus rapidement. Bref, il y a des dispositions à prendre. Il y a des mesures à prendre. Et l'apôtre Jacques ajoute ici une note pratique. Ne nous contentons pas d'une connaissance plus ou moins abstraite, car c'est le cœur qui doit être rempli. La parole de Dieu dit « Affermissez vos cœurs ». Il faut expérimenter ce qu'on a lu, mais il faut aussi le vivre. Vous êtes d'accord ? Amen. Bien-aimés, il y a parfois divorce entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes. Nous avons des connaissances, c'est vrai. Nous pouvons citer des versets par cœur. Mais la Bible est un livre vivant dont l'enseignement réclame application. L'obéissance à la parole de Dieu ne va pas de soi. Elle procède d'abord de l'abondance de la parole en nous, de l'abondance donc de la parole en nous. Ensuite, de la disposition de notre esprit à croire. Et enfin, je dirais, de la mise en pratique progressive de la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu affermit notre vie spirituelle. L'homme doit vivre de tout ce qui sort de la bouche, de la parole de Dieu, nous dit la Bible. Et également, elle nous garantit les certitudes, eh oui, l'espérance de la vie éternelle, du discernement de l'erreur et de la protection également contre le péché, afin de vous éviter de pécher, nous est-il dit dans l'épître de Jean. Enfin, cinquièmement, le dernier point, choisir de s'attacher à lui, c'est-à-dire de se consacrer à lui. Ce choix, il ne va pas venir tout seul. Ce choix, c'est celui de notre propre volonté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne supporte plus les liens ni les contraintes. Et on divorce très rapidement. Or, c'est volontairement que le chrétien doit s'attacher à Dieu et non pas par obligation. C'est une décision mûrie. C'est une conviction, la soumission de sa volonté à celle du Seigneur. Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Dans l'orage du jardin de Gethsémané, l'attachement de Jésus à son Père nous est dévoilé comme dans un éclair. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Seigneur lui-même soumettait sa propre volonté à celle de son Père dans un attachement extraordinaire. Sommes-nous prêts, mes bien-aimés, à faire de même? L'esclave hébreu qui avait servi son maître pendant 6 ans pouvait sortir libre. Mais s'il décidait volontairement de rester au service de son maître, il s'engageait à vie. C'est dans l'Exode, au chapitre 21, à partir du verset 2, je vous en lis un petit morceau. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, je ne veux pas sortir libre. » Alors son maître le conduira devant Dieu et l'esclave sera pour toujours à son service ou attaché à son service. Nous étions des esclaves, mais maintenant nous sommes aussi des esclaves, mais des esclaves rachetés. Amen. Dieu aimerait entendre nous dire « J'aime mon maître et je ne veux pas sortir libre. Je veux rester au service de mon Dieu. Voulez-vous rester au service de votre Dieu ? » C'est à cette condition seulement que nous serons utiles à Dieu et que nous porterons également du fruit. Combien de doutes, combien d'incompréhensions, combien d'amertumes remettent en cause souvent, c'est vrai, notre attachement au Seigneur. Il faut bien le reconnaître. Qu'il nous aide, bien aimé, à nous attacher fermement. J'en terminerai bientôt par un exemple. Peut-être que certains s'en souviennent, je l'avais déjà dit cet exemple, cette anecdote, mais il y a pas mal d'années. C'était dans les Alpes, il y a aussi pas mal d'années, il doit avoir au moins 30 ans, j'étais avec mon épouse, et j'ai été témoin d'un spectacle qui, pour moi, m'a donné un sens nouveau à l'attachement. J'assistais au lancement de nombreuses ailes Delta, vous connaissez ce que c'est, et vous l'avez vu. Mais tout à coup, est apparue une aile plus grande que les autres. Elle était maniée par un moniteur et son élève, l'un attaché à l'autre, et les deux ensemble à l'aile. Ils étaient liés d'abord dans la marche, liés ensuite dans la course, enfin liés dans le vol. Ils vivaient dans un même temps la même expérience, avec les mêmes craintes, les mêmes joies et les mêmes objectifs. Partis ensemble, le maître et l'élève sont arrivés ensemble, unis dans une même confiance pour une même entreprise. Aucun des deux ne pouvait changer d'avis, ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Ils étaient condamnés à aller donc jusqu'au but et à vaincre ensemble. Voilà une belle image pour nous. L'élève était assuré que le maître le conduirait au bon port. Quelle merveilleuse image de ce que représente et de ce que permet notre attachement à Dieu. Quel encouragement, mes bien-aimés, de savoir qu'avec Dieu, nous parviendrons au but. Ne vaut-il pas la peine de s'attacher à lui? N'envisons jamais un possible retour en arrière. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, nous dit sa parole, n'est pas bon, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. S'il fallait du courage à l'élève pour s'engager avec le moniteur, il en fallait autant, je dirais même sinon plus de la part du moniteur, de s'élancer avec l'élève. Avons-nous déjà pensé qu'il faut du courage à Dieu pour nous prendre en charge? Avons-nous réfléchi à ce qu'il en a coûté à notre Seigneur de s'attacher à nous? Pensons à son sacrifice sur la croix, animé par la volonté passionnée de nous arracher au péché. Il repoussait sans cesse aussi les salutations du malin. « Si tu es le Fils de Dieu, descends, oui, de la croix, » disait-il. Mes bien-aimés, combien notre attachement parfois est pâle face au Seigneur. Le Seigneur nous veut tout entier à lui. Pas un peu, mais tout entier à lui. Combien notre attachement est pâle, je le répète et je parle pour moi. Plus nous serons attachés aujourd'hui au Seigneur, plus nous lui ressemblerons demain. Amen. En conclusion, parce qu'il faut bien une conclusion, choisis quoi ? Choisis la vie afin que tu vives. Moïse ne s'est pas trompé. Choisissons sans hésiter, sachant que ce choix implique l'amour. Je dis bien l'amour, l'obéissance et un attachement indéfectible à Dieu. Montrons-nous dignes, fermes, après avoir, je dirais, choisi, car nous sommes certains d'atteindre le but fixé. Philippiens 3, 10 à 11, Philippiens chapitre 3, verset 10 à 11, je vous le lis. Mon but, c'est de le connaître, lui, Jésus, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, nous est-il dit, si possible, et la version Sommer dit, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Voulez-vous être de ceux qui arriveront à la résurrection d'entre les morts? Pour moi, je dis un gros oui. Amen. Merci Père pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Seigneur, nous voulons choisir la vie. Nous devons choisir d'être tes esclaves, de te servir, d'apporter tout autour de nous la bonne odeur, la bonne parole de Jésus. Nous voulons être des exemples autour de nous, autour de nos familles, de nos collègues, de nos voisins, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs en Christ. Seigneur, bon Dieu, bénis cette Église afin qu'elle aille de l'avant spirituellement. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Pourvois aux besoins de chacun, qu'il soit spirituel, qu'il soit physique, qu'il soit matériel et qu'il soit moral. Seigneur, je te bénis, je te loue et je te dis que ton nom soit glorifié, Père, au siècle des siècles. Amen. Amen.